Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec Mathieu Rivero aujourd'hui dans le studio, bonjour.
Bonjour.
Chargé de mission forêt filière bois pour le parc naturel régional du Vercors.
C'est ça.
Alors explique-nous un peu ton travail.
Alors, donc il faut revenir un petit peu sur le parc du Vercors. Donc c'est un syndicat mixte qui n'a pas de compétences à proprement parler, mais des missions dont le contenu en fait est défini politiquement, qui s'articule autour de plusieurs grandes thématiques, dont la forêt. Pour mettre en œuvre cette thématique, il y a un chargé de mission, forêt filière bois, donc moi en l'occurrence, depuis janvier 2018. Et en fait, on a une convention de partenariat avec le Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne-Rhône-Alpes, qui met à disposition, dans le cadre d'un mi-temps, un technicien forestier au parc du Vercors. Donc les grands enjeux qui sont mis en œuvre ont trait, bien sûr, aux enjeux forestiers. Donc il y a plusieurs grandes thématiques. Bah, d'une part, c'est la communication, l'exemple avec Vie ma vie de bûcheron qu'on va aborder. Tout ce qui est aussi qui concerne les ravageurs hein, des forêts, des champignons, la calarose du frêne, la pyrale du buis, ce genre de choses. Mais également d'autres thématiques concernant le paysage. Je pense au réseau de fenêtres paysagères qui avait été mis en œuvre par le parc il y a quelques années. Également la gestion forestière dans le temps long en général, avec des enjeux par rapport au réchauffement climatique, l'installation de placettes pour le suivi des dépérissements éventuels. Également l'équilibre sylvo-synergétique, donc entre la forêt, le gibier, pour permettre à la forêt de se régénérer. Des enjeux qui sont liés bien sûr à la préservation de la biodiversité, ainsi qu'à la protection de la ressource en eau, ce qui est un enjeu majeur pour le territoire du parc.
Je crois que la dernière fois d'ailleurs qu'on avait reçu un chargé de mission dans cette filière précisément, c'était sur les ouvertures de clairières pour le tétralyre par exemple. Ça permet de fusionner comme ça deux missions différentes du parc.
Voilà, et on voit que la forêt est quand même quelque chose de transversal.
C'est ça.
Justement. Ouais. Et puis enfin, je dirais un niveau interterritorial, différentes stratégies forestières avec les territoires voisins, notamment du côté isérois, avec la métropole de Grenoble, le parc de Chartreuse, la communauté de communes du Grésivaudan, le Pays Voironnais et Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté. Voilà, des stratégies interterritoriales en matière de politique forestière. Et puis également le programme régional Forêt-Bois, piloté au niveau local, régional, par l'État et la DRAF. Voilà, donc tout un tas de sujets qui concernent la forêt.
Tu aurais des chiffres, on aime toujours ça. Combien d'hectares de forêt à gérer avec le parc naturel régional du Vercors?
Alors, la forêt sur le territoire du parc, ça recouvre 60% du territoire. Voilà. Donc c'est assez conséquent. Hein. Faut savoir qu'au niveau national, c'est moitié moins, c'est le tiers, ce qui est déjà énorme. Mais voilà, il suffit de lever les yeux pour se rendre compte qu'on a un certain nombre de forêts. Ça représente en tout plus de 120 000 hectares.
Ton arrivée est fraîche, tu le rappelais, en juin de cette année 2018. Est-ce que pour autant, tu aurais ce qu'on entend dire, par exemple ici très localement, par un certain nombre d'éleveurs ovins notamment, que cette forêt est en train de gagner des kilomètres et des kilomètres par an?
Absolument, absolument. Alors je suis arrivé en janvier pour préciser. Mais ça fait un certain nombre d'années que je travaille pour le CRPF, du coup, plutôt côté Isère, Sud-Isère notamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis à peu près les années 50-60, on constate une déprise agricole hein, qui est liée à une mutation, je dirais, de la structure économique du pays, avec plus d'emplois dans le secteur tertiaire, hein, avec les gens qui se regroupent dans les villes. Et du coup, un petit peu une déprise agricole qui est liée avec effectivement la forêt qui regagne certains coteaux. Il suffit de comparer des photos sur le site Géoportail, par exemple, hein, de l'État, et puis de mettre les couches qui correspondent aux photos aériennes des années 50-60. Et là, on voit tout de suite l'évolution par rapport à aujourd'hui, l'évolution qui est manifeste avec des peuplements qu'on appelle pionniers qui s'installent. Composé notamment de pins sylvestres. Et puis, il y a également eu, à la fin du 19e siècle, des campagnes de reboisement menées par l'État dans le cadre de la restauration des terrains en montagne, notamment dans certains secteurs du Diwa.
Et l'ONF dans tout ça ? Alors, là... Ils n'ont jamais été cités encore. Est-ce que ils sont quand même, c'est des forêts domaniales pour la plupart, des propriétés parfois du département sur certaines zones, d'autres, il y a une multitude d'acteurs finalement.
Alors la forêt recoupe effectivement un certain nombre d'acteurs. Alors il faut bien se rendre compte qu'il y a deux mondes en forêt. Il y a la forêt privée qui représente à l'échelon national à peu près 70% de la forêt. Et au niveau local par exemple, on est dans un ratio un peu inférieur puisqu'on est environ 50-50. Donc d'un côté, la forêt privée qui appartient à une multitude de propriétaires, ça pose des questions par rapport à tout ce qui est lié au morcellement par exemple. Et puis de l'autre côté, effectivement, la forêt publique, donc on en distingue plusieurs types, les forêts domaniales de l'État, les forêts communales et également les forêts de certains établissements publics. Donc ces forêts publiques en vertu du régime forestier sont gérées effectivement par l'Office national des forêts, qui a été créé en 1964 et qui a pris la suite de l'administration forestière.
Alors du coup, votre lien avec cette structure, on imagine sur le parc, il y a un certain nombre d'espaces qui sont aussi gérés donc, par l'ONF.
Alors le rôle du parc, c'est de fédérer tous les acteurs, tous les usagers de la forêt, économiques, socio-professionnels, le grand public également, et de travailler avec les différentes structures, côté forêt privée, ça passe par toutes les coopératives forestières, les experts, le CRPF, et bien sûr, côté forêt publique, avec l'ONF, avec un certain nombre de dossiers qu'on a en commun, notamment sur la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, qui est une forêt domaniale, la forêt domaniale du Vercors. Et bien sûr, on les associe, ils sont systématiquement associés à toutes les politiques forestières qui sont menées dans le cadre du parc du Vercors.
Tous les grands thèmes que tu nous citais tout à l'heure pour préciser cette mission filière bois et donc forêt, il y a une partie qui va être plus sur la gestion de la forêt, de ceux qui y habitent finalement et de qu'est-ce qu'on en fait, et puis toute la partie filière bois, qu'est-ce qui est cherché et obtenu finalement par le parc ?
Alors, en forêt, donc, dans son rôle économique, on distingue deux grands types de valorisation des bois, le bois d'œuvre et le bois énergie ou bois d'industrie. Cette matière première va être ensuite orientée vers les scieries. Donc, il y en a assez peu sur le périmètre du plateau du parc du Vercors. Ce sera plus sur l'agglomération de Valence ou de Grenoble, avec un certain nombre d'emplois induits. Dans le département de l'Isère, par exemple, c'est 6700 emplois dans la filière forêt-bois. Et en fait, la politique du parc consiste, bien sûr, à réaffirmer ce rôle de production de bois d'œuvre de la forêt, bois d'œuvre de qualité, et notamment la promotion de la construction bois. Voilà, donc il y a l'interprofession forêt-bois de l'Isère et de la Drôme d'Ardèche, avec qui on travaille, qui propose une délibération à destination des collectivités qui leur permet de s'engager et de promouvoir l'utilisation de bois locaux dans la construction. Ça a été fait sur un certain nombre de communes du parc. Je pense à La Rivière, par exemple, dont le maire Robert Aléon Biron est délégué forêt au parc du Vercors et qui a construit dans sa commune une école avec du bois local.
Et ouais, parce que ça a été souvent reproché, l'éco-bâti, tout ça, ça part à fond la caisse, dans le Diwa encore, évidemment. Mais c'est des fois du bois qui vient de très très loin, ou le Douglas des Monts du Lyonnais, enfin bon...
Tout à fait. Alors, il y a un enjeu vraiment de valoriser ces bois locaux, parce qu'effectivement, on s'est habitué aux bois du Nord, notamment le mélasse de Sibérie, de ces coins-là, qui sont en fait des bois blancs, sans nodosité, sans taches ni rien. Et du coup, au niveau local, il y a des problématiques d'aspect, on va dire, sur le sapin, par exemple, qui est une essence au moment du séchage, où il y a des traces, des taches noires qui peuvent apparaître. Mais bon, ça occasionne rien sur la structure du bois à proprement parler, mais visuellement, c'est vrai que ça fait un impact. Et du coup, ça peut être préjudiciable, d'où l'intérêt de sensibiliser un petit peu les consommateurs par rapport à ça, en leur expliquant que c'est pas parce qu'il y a une tache ou un nœud sur une planche que c'est préjudiciable à la qualité du bois.
Voilà, on est encore dans des rapports esthétiques et en plus, j'allais dire, dans nos pays de pierre, les maisons en bois sortent comme des champignons ou des verrues, certains le disent. Ça aussi, il y a un gros travail de sensibilisation à faire sur le public finalement.
Oui, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire à tous les niveaux et notamment auprès du grand public hein, pour voilà, et essayer notamment de travailler aussi avec les architectes pour intégrer au mieux cette question du bois par rapport au paysage, en essayant que ça soit le plus harmonieux possible. Et je rappelle quand même que l'intérêt du bois, c'est également le bois de structure, donc pas forcément le bois de bardage d'extérieur. Donc on peut très bien l'utiliser à l'intérieur de la maison, en structure, en charpente, voilà, sans forcément que ça se voit de l'extérieur.
Oui, à la limite, on se rachète un bardage tout propre d'ailleurs.
Voilà,
bon,
par exemple.
Et aussi sur cette partie biodiversité. Alors, cette forêt qui se ferme, peut-être se modifie aussi sur sa biodiversité. Comment est-ce que c'est étudié ?
La fermeture des forêts, alors c'est vrai que c'est préjudiciable à certaines espèces, hein, tant de faune que de flore, qui sont plutôt adaptées à des milieux ouverts. Et effectivement, le fait que la forêt gagne du terrain, ça peut conduire dans certains endroits à modifier un petit peu cette biodiversité. Pour ma part, je ne mène pas encore d'études à proprement parler spécifiquement, mais là j'ai des collègues qui sont très en pointe là-dessus, du service biodiversité du parc.
Et donc tu ne sais pas ce qui relève là, s'ils voient quelque chose déjà qui est en train de se dessiner. Est-ce que par exemple il pourrait y avoir des programmes de réduction de l'extension du pin noir d'Autriche, dont on sait qu'il se reproduit très très vite par exemple ?
On n'a rien à ma connaissance, sauf erreur de ma part, de flécher... en ce moment là-dessus. Mais effectivement, le pin noir, on parlait tout à l'heure des reboisements menés par le RTM à la fin du 19e siècle. Une grande partie des peuplements qui ont été replantés dans ce cadre-là sont issus de pin noir, en fait. Ce sont des peuplements de pin noir, voilà, avec un certain nombre d'enjeux aujourd'hui. Alors après, l'autre dimension à prendre en compte, c'est qu'au niveau... Au niveau local, avec le changement climatique, il y a des évolutions dans la répartition des essences. Avec des essences bien sûr qui sont plus ou moins adaptées selon les stations et voilà, avec des enjeux par exemple sur l'épicéa qui est une essence qui va être amenée à disparaître progressivement dans nos territoires de moyenne montagne du fait du manque d'eau éventuel. En fait on recommande voilà, de ne pas planter d'épicéa en dessous 1000 mètres. Donc l'enjeu de la forêt dans les prochaines années, ça va être d'avoir des essences adaptées au climat local et le pin noir en fait partie.
Oui, finalement, il est pas mal adapté, souvent décrié, mais puisqu'il est là et que ça marche, bon, il va falloir faire avec. L'autre chose aussi que tu citais tout à l'heure, c'était les ravageurs. Qui sont-ils ? Bon, tu as cité la pyrale du buis qui débarque et que tout le monde a bien vu là, de voir ces buis se faire abîmer.
Alors, il y a en ce moment, depuis une dizaine d'années en France, ça a pénétré par le nord-est du pays, c'est la calarose du frêne, qui est en fait un champignon qui attaque le frêne commun. Et aussi potentiellement le frêne excelsior, mais qu'on retrouve plus dans la zone méditerranéenne, et qui en fait, on le voit, c'est flagrant, notamment en ce moment, hein, la période estivale, où on voit des défoliations extrêmement précoces, avec des rameaux qui sont nus en fait, où il n'y a plus de feuilles dessus. Donc ça, ça va être un enjeu majeur, sachant qu'il y a peu de moyens de lutte quand même pour éradiquer cette maladie. Et puis d'autres ravageurs, par exemple, ça peut être sur l'épicéa, le bostrich, hein, qui est un petit insecte qui va venir attaquer le bois et faire mourir les arbres. Ça se voit bien puisque ça se propage en fait par taches d'huile. Et du coup, on a des taches comme ça de dépérissement d'épicéa à certains endroits. Et puis dans certains secteurs... Donc là, c'est plus lié aux facteurs climatiques. Le sapin à basse altitude qui peut souffrir en fait des sécheresses estivales. Ça s'est vu notamment dans le sud du Trièves, sur des communes comme Trémini par exemple, où suite à la canicule de 2003, on a constaté un certain nombre de dépérissements.
Quand tu disais il n'y a pas trop de solutions et en même temps c'est un enjeu, c'est quoi l'enjeu ? C'est donc de passer à d'autres espèces, prendre de l'avance, réintroduire des arbres
Ça peut passer par là, hein, réintroduire des arbres qui peuvent être potentiellement adaptés. Hein, je pense aux cèdres, par exemple, dans certains endroits. Mais il faut également, je crois que l'enjeu majeur, est-ce que les forestiers ont essayé de promouvoir, c'est vraiment conserver une biodiversité d'essence qui soit suffisamment importante pour pallier aux éventuels dépérissements. Donc concrètement, ça va être d'éviter les plantations sur des grandes surfaces en monoculture avec une seule essence, mais vraiment privilégier un mélange d'essences. Et après, dans la gestion forestière, dans les zones en jeu, ça va être de privilégier de la gestion en futaie irrégulière, par exemple, quand c'est justifié, notamment en zone de montagne ou en zone un petit peu escarpée, où là, il y a également des thématiques de chute de blocs à promouvoir.
Et donc, si on n'était plus dans la monoculture, par exemple, le champignon du frêne se propagerait beaucoup moins vite, en fait, c'est ça un petit peu l'idée.
Potentiellement, ça peut freiner, oui.
Sur Erdiwa, avec Mathieu Rivero, on va maintenant parler de cette opération, une opération de com, tu disais, il y a aussi de la com. Alors, Vie ma vie de bûcheron, c'est cette opération.
Oui, je tiens à préciser que les premières opérations Vie ma vie de bûcheron ont été menées dans le parc naturel des Bauges, reproduites en Chartreuse. Et cette année, on a décidé de le mener en Vercors. Ça correspond à une volonté politique du parc. Également des acteurs de la filière. Donc de manière très concrète, l'objectif c'est de proposer 7 demi-journées réparties équitablement sur le territoire du parc du Vercors qui permettront aux gens de visiter un vrai chantier forestier avec, et pourront bien sûr échanger avec les acteurs. Donc il y aura un accueil, je dirais, par l'interprofession qui présentera un petit peu la manifestation, le parc du Vercors quand je pourrai y assister. Et ensuite, il y aura le gestionnaire forestier qui va venir expliquer, mettre en contexte un petit peu, hein, comprendre la forêt, la gestion qui y est pratiquée. Et puis ensuite, pour descendre progressivement jusqu'à la coupe, en expliquant voilà, les grands principes de la gestion forestière. Bon, bah, là, voilà, on est dans un peuplement irrégulier, on applique... tel type de gestion, on va venir sur la parcelle tous les 12 ou 13 ans selon la productivité, on va couper tel pourcentage d'arbres. Et une fois cette mise en contexte réalisée, là, il y aura une démonstration d'abattage donc par un bûcheron qui aura au préalablement laissé quelques arbres justement pour cette démonstration. Et donc là, il va expliquer les techniques. Parce qu'il faut bien se rendre compte que abattre un arbre, le travail de bûcheron, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement technique, hein, ne serait-ce que pour le diriger, notamment en contexte de forte pente. Et donc là, il va montrer comment il fait pour éviter de frotter les arbres quand il va abattre l'arbre qu'il doit couper, et également préserver la régénération forestière qui est au sol. Voilà, en expliquant vraiment le métier. Et puis le but, c'est d'instaurer un cadre de dialogue, en fait, que les gens puissent poser les questions qu'ils souhaitent sur tous les enjeux liés à l'abattage et puis à la gestion forestière. Et donc, sur le plan de l'organisation, c'est porté par le parc, donc je précise que c'est gratuit. Et c'est organisé par un maître d'œuvre qui est FIBOIS, donc l'interprofession forêt-bois de l'Isère et de Drôme-Ardèche.
On voit souvent des coupes franches, rases, et où effectivement personne s'est ennuyé à savoir quel était l'angle de l'arbre, etc. Cette question de la gestion forestière va donc, et là tu le disais, jusqu'à savoir où l'arbre va tomber, pour même faire attention à ce qui se passe au sol finalement, et pas uniquement les branches des voisins.
Absolument. Alors l'idée c'est vraiment de... Donc je pense que la majorité des chantiers vont concerner des coupes dans des peuplements irréguliers, donc en fait il n'y aura pas de coupe rase. Le principe de la futaie irrégulière, c'est de récolter, donc on a un peuplement avec des arbres de toute catégorie d'âge et de taille, et l'objectif c'est de récolter, de faire vraiment de la récolte, ce qu'on appelle du jardinage, en récoltant les plus gros bois, donc ceux qui sont matures, mais également ceux qui sont dépérissants, pour vraiment travailler au profit de la régénération naturelle et dans un objectif de qualité. On ne sera pas sur de la coupe rase à proprement parler, comme on peut le voir dans certains endroits, notamment pour des valorisations en bois énergie ou en bois d'industrie, mais on sera bien sur de la gestion en futaie irrégulière. D'où l'intérêt, quand on abat des arbres, de veiller à ce qu'ils n'écrasent pas la régénération qu'il peut y avoir en dessous.
Et notamment, ça on le sait assez peu, les arbres qui poussent au pied d'un arbre ne sont pas ses enfants directs et bien d'autres. Et donc, il y a bien un brassage génétique qui doit se faire comme ça. Alors, si on coupe tout ce qui est autour de cet arbre-là, c'est mort, quoi.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Il y a pas mal de partenaires sur cette histoire et tu parlais de Fibois. Est-ce que c'est un travail à l'année, tout le temps avec eux et pas uniquement sur des opérations de communication comme celle-ci ?
Alors là, spécifiquement, par ailleurs, on travaille sur un certain nombre de thématiques ensemble hein, toute l'année. C'est un interlocuteur privilégié. Maintenant, pour la mise en œuvre de cette opération, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est l'occasion de le faire.
Oui.
Donc l'opération est portée par le parc du Vercors avec le financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le biais de la ligne allouée au parc. Du coup, l'organisation concrète pilotée par l'interprofession, des acteurs privilégiés locaux, ce sera les offices de tourisme du territoire qui en fait vont charger de faire la communication auprès du grand public et aussi de recueillir les inscriptions. Alors c'est vraiment un partenaire essentiel dans le sens où en fait les chantiers forestiers ne sont pas connus très longtemps à l'avance. Pour plusieurs raisons, hein, la météo, la disponibilité des entrepreneurs de travaux forestiers. Et donc, il y a un travail important à faire qui est de recontacter les personnes intéressées justement quelques jours avant. Donc, ça demande une grande réactivité. Et puis ensuite, bien sûr, je tiens à préciser que on travaille avec l'Office national des forêts pour la forêt publique, mais également avec la coopérative forestière Coforêt pour la forêt privée. Et puis, bien sûr, les bûcherons, notamment l'association Drôme Isère Forêt, qui regroupe les entrepreneurs de travaux forestiers de la Drôme et de l'Isère. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de travailler en lien avec tous les acteurs de la forêt pour donner une image de la forêt qui soit la plus multifonctionnelle possible.
Alors on l'a dit, il faut s'inscrire, finalement c'est presque indispensable, hein, ce qui vous permettra de sonder pleinement le nombre de personnes disponibles et sur quel secteur. On parle de 4 secteurs, alors on pourrait les citer et donner les jours, si tu veux bien.
Effectivement, donc il y aura une journée sur le Trièves qui aura lieu le mardi 17 juillet, donc le mardi matin. Sur les 4 montagnes, il y a 3 journées de prévues, le mardi 10 juillet, le mardi 24 juillet, le mardi 7 août. Sur le secteur des Coulmes, il y aura une journée, le mardi 21 août. Et pour le secteur Vercors-Dromois, 2 journées, le mardi 31 juillet et le mardi 14 août. Donc le flyer, il est normalement diffusé dans les commerces locaux, aux offices de tourisme et également pour les gens qui ont une préférence pour Internet. Il suffit de se rendre sur le site des offices de tourisme, donc du Trièves, des 4 montagnes, tous les territoires, ou alors directement sur le site Parc du Vercors. Voilà.
Vie ma vie de bûcheron, est-ce qu'ils vivent bien, selon toi ?
Alors déjà, il faut les saluer parce que c'est un métier qui est extrêmement dur physiquement,
ouais.
Notamment en ce moment avec des journées chaudes comme ça, dans lesquelles il est extrêmement difficile de travailler. Ensuite, il faut rajouter quand même la topographie du terrain quand on est aux zones de forte pente et qu'il faut porter tout le matériel. Hein, faut se rendre compte qu'une tronçonneuse, c'est quand même au moins 6-7 kilos. Voilà, donc toute la journée à bout de bras, c'est extrêmement harassant. Donc voilà, des journées qui sont longues d'ailleurs. Donc voilà, néanmoins, il y a quand même un besoin hein, de bûcherons, il y a du travail. Et puis le risque quand même ces années à venir, c'est de constater un non-renouvellement en fait des entrepreneurs de travaux forestiers, notamment des bûcherons. On a fait faire une étude justement à l'interprofession en 2015 pour connaître un petit peu la sociologie en fait des bûcherons du territoire. Et en fait, l'étude a mis en évidence le fait qu'on avait des métiers qui étaient vieillissants, avec un manque d'installation, notamment de la part des jeunes. Donc voilà, l'objectif, c'est également de par Vie ma vie de bûcheron, de présenter une bonne image hein, qui correspond vraiment à la réalité de ces métiers et vraiment de prévenir les conflits d'usage qui peuvent intervenir entre le monde de l'exploitation forestière, hein, de l'économie et puis le tourisme.
Ce qui permet de préciser que toutes ces visites sont accessibles aux enfants sous la responsabilité de leurs parents, mais voilà, il y aurait peut-être un travail un peu de transmission. Et quand en plus on voit des pans entiers de professions qui se plaignent après de travailleurs détachés, par exemple, c'est ce qui risque d'arriver hein, s'il n'y a pas de reprise en local, par exemple.
Effectivement, si on peut susciter des vocations, bah, ça sera vraiment que de la plus-value. Donc oui, au niveau du public, il n'y a pas de restriction particulière, hein, du moment qu'on est apte physiquement à marcher 10 minutes pour se rendre sur le chantier. Voilà, je précise qu'au niveau de la sécurité, les groupes sont restreints à environ 25 personnes maximum. Pour des enjeux liés à la sécurité, il y aura un casque qui sera distribué, qui est prévu à cet effet, ainsi qu'un chasuble. Mmh. Voilà. Et les consignes de sécurité seront distillées au fur et à mesure, et on expliquera notamment pourquoi il vaut mieux éviter de grimper sur des tas de bois ou ce genre de choses. La forêt, c'est quand même un milieu, et l'abattage notamment, quand même dangereux et accidentogène.
Et venez donc équiper en conséquence pour aller et en montagne et en forêt, parce que ben c'est, même s'il fait chaud, on est quand même en altitude, et puis la forêt, c'est pas, ça se marche pas comme dans la rue, quoi.
Voilà, et j'en profite pour parler de la vigilance qu'il faut apporter par rapport aux tiques, avec notamment la boréliose de Lyme.
En ce moment, les tiques, il y en a vraiment beaucoup cette année.
Il y en a énormément, il faut faire très attention, bien se couvrir. Donc concrètement, ça peut être de rentrer le pantalon dans les chaussettes, le t-shirt dans le pantalon, de mettre un chapeau, et vraiment, quand on rentre chez soi, de bien s'inspecter, voilà, puisque les tiques s'installent ensuite et peuvent générer des maladies avec des symptômes. Hein. Si on voit, suite à une piqûre de tique, des démangeaisons ou alors un érythème, c'est-à-dire un cercle rouge qui s'étend de manière concentrique autour de la piqûre, là, il faut vraiment consulter son médecin traitant qui dispensera bien souvent des antibiotiques.
Mathieu Rivero, merci pour cette présentation de l'opération Vie ma vie de bûcheron. Du 17 juillet jusqu'au 21 août sur 4 secteurs différents, rendez-vous dans vos offices du tourisme pour vous inscrire et avoir plus de renseignements. À la prochaine.
Merci.
Interview.
Ok, de bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.